Et maintenant, je passe la parole à Nathalie Arthaud.
La crise sera une crise longue, ce sera une crise dure, vient de déclarer le Premier ministre Fillon. Et cela alors que la crise est déjà dure, brutale, que les licenciements se multiplient, les fermetures d'usines et aussi que les chiffres du chômage s'envolent. Ce n'est donc pas fini, le gros est devant nous, alors même que la crise n'est plus seulement financière, que la production industrielle est en chute aux États-Unis comme en France, que le commerce mondial ralentit, que des États entiers, y compris dans la partie orientale de l'Europe, sont au bord du dépôt de bilan. La crise frappe toute l'économie mondiale sans que les maîtres de cette économie sachent y faire face. Pas plus qu'ils ne font face aux catastrophes naturelles, tempêtes tropicales, tremblements de terre ou éruptions volcaniques. Le fait même que la société soit aussi désarmée devant des catastrophes issues de sa propre activité que devant les catastrophes naturelles est la pire condamnation de l'organisation actuelle capitaliste de l'économie. C'est la faillite d'une organisation économique et c'est la faillite de la classe sociale qui la domine et qui en est la bénéficiaire, la bourgeoisie. Celles et ceux qui ont la capacité historique de mettre fin à la domination de la bourgeoisie sur la société et de permettre à l'économie de se développer sans propriété privée des moyens de production, sans recherche de profit individuel, sans concurrence et sans crise, ce sont les travailleurs salariés. Alors oui, je le reprends à mon compte, travailleuses, travailleurs. Si Arlette Laguiller a toujours commencé ses discours par ces mots, c'est parce que nous nous adressons avant tout à cette classe sociale qui aujourd'hui fait marcher l'économie, fait vivre toute la société et qui représente son seul espoir de transformation pour demain. Nous nous adressons en priorité à cette classe sociale non seulement parce qu'elle est exploitée, mais parce que c'est elle et elle seule qui est porteuse d'un autre ordre social que le capitalisme. Au-delà de tous les changements survenus depuis Marx, la société reste divisée en deux classes fondamentales, antagonistes, la bourgeoisie et le prolétariat, porteuses chacune d'une organisation économique différente, le capitalisme pour la première et le communisme pour la seconde. Cette classe sociale des travailleurs est bien plus variée qu'au temps de Marx. Les progrès scientifiques et technologiques, le développement et la diversification de l'économie ont fait surgir de nouvelles branches, des industries nouvelles. Mais les ouvriers sur chaîne dans l'industrie automobile, ou les caissières de supermarchés, les travailleurs du bâtiment ou les cheminots, les ingénieurs ou les pilotes d'avion, les employés de banque ou les manœuvres, les chimistes ou les informaticiens, ils ont tous en commun qu'ils sont exploités. Ils ne touchent qu'une partie de la valeur qu'ils créent sous forme de salaire. Le reste de cette valeur va grossir les profits de la classe bourgeoise. Les infirmières, les enseignants, les postiers et dans l'ensemble les salariés des services publics font partie de cette même classe sociale. Sans être exploités par un patron privé, ils n'ont eux aussi que leur salaire pour vivre. Et contrairement à tant de riches parasites, ils mènent une activité utile, voire indispensable à la société. Dans la société qui est la nôtre, la société capitaliste, les moyens de production, les usines, les mines, les banques, les grandes entreprises industrielles appartiennent aux capitalistes. C'est cette classe, numériquement minoritaire, qui en dominant l'économie, domine la vie sociale et la vie politique. C'est sa vision du monde qui est répercutée par la télévision, par la radio, par la presse, par les grands moyens d'information, qui sont en général sa propriété, Et c'est sa vision du monde qui est même enseignée à l'école. C'est au nom de la propriété privée que la classe capitaliste s'approprie et concentre entre ses mains une part importante du travail social, ne laissant aux salariés que le minimum nécessaire pour vivre et se reproduire. C'est aussi au nom de la propriété privée que les différents capitalistes se mènent par la concurrence une guerre permanente, chacun cherchant à réaliser le maximum de profit. L'économie capitaliste est une économie qui reproduit sans cesse et aggrave les inégalités sociales, concentrant les richesses à un pôle et développant la pauvreté à l'autre. C'est une économie qui produit en fonction du marché, c'est-à-dire uniquement en fonction de la consommation solvable. Elle ne produit que pour ceux qui payent. C'est aussi une économie dont le fonctionnement est chaotique, irrationnel, imprévisible, car chaque capitaliste décide de ce qu'il produit, comment, en fonction de ses seuls intérêts, sans que quiconque organise, réglemente, coordonne la production globale. La bourgeoisie et l'ordre économique dont elle est porteuse, le capitalisme, ont une longue histoire. L'économie capitaliste s'est imposée d'abord dans quelques pays d'Europe occidentale, l'Angleterre bien sûr, mais aussi la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. La domination de la bourgeoisie a reposé dès ses débuts sur l'exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. Son histoire, depuis ses débuts, est une succession de pillages, de guerres, de crimes, du trafic des esclaves au travail des enfants dans les usines de textiles de la Révolution industrielle, du massacre de peuples entiers à la conquête des colonies. Malgré tout cela, le capitalisme a représenté à ses origines un progrès formidable pour l'humanité. Pour reprendre l'expression de Marx dans le Manifeste communiste, la bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Et il expliquait « C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. » Elle a créé de tout autre merveille que les pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales gothiques. Elle a mené à bien de tout autres expéditions que les invasions et les croisades. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le capitalisme n'est plus ce facteur de progrès qu'il a été à ses origines, lorsqu'il a mis fin à la stagnation séculaire des modes de production antérieurs, lorsqu'il a libéré les forces productives de l'humanité, lorsqu'il a fait exploser les capacités scientifiques et techniques. Aujourd'hui, le capitalisme est devenu un cancer sur le corps social et un frein devant tout progrès humain. Cela fait, au bas mot, un siècle et demi que, parti à la conquête du monde, le capitalisme ne supprime plus ce qui reste des anciennes formes d'oppression, même les plus archaïques. Il s'accommode des castes en Inde, des antagonismes ethniques, voire de l'esclavage en Afrique, et d'infinies variétés de formes d'oppression, notamment de l'oppression des femmes, un peu partout. Bien des pays pauvres ont donc été intégrés dans l'économie capitaliste mondiale avec des scories d'anciens systèmes d'oppression que le capitalisme ne s'est même pas donné la peine de supprimer, quand il ne les a pas ressuscités et en tout cas confortés. Mais à tout cela, il a ajouté l'esclavage salarial et la loi du profit qui aujourd'hui dominent et conditionnent toutes les autres formes d'exploitation et d'oppression. Cela fait près d'un siècle et demi que le monde entier est devenu capitaliste. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune région de la planète où la vie des hommes ne soit pas entièrement dépendante de l'économie capitaliste, directement ou indirectement. Le capitalisme est un système mondial. Les États-Unis, la France, les grands pays industriels sont capitalistes. Et sont aussi capitalistes, non seulement le Brésil et l'Inde, mais tout autant Haïti, le Mali ou le Zimbabwe. Les pays pauvres ne sont pas simplement en retard par rapport aux pays riches. La richesse des grands pays impérialistes comme les États-Unis ou la France et la misère, l'arriération économique de la majorité pauvre de la planète sont l'expression d'une même intégration dans le même système capitaliste mondial qui a creusé, consolidé et aggravé sans cesse la dépendance des pays sous-développés par rapport aux pays impérialistes. Même pendant ces périodes d'expansion, le capitalisme représente un énorme gâchis pour la société. Même pendant ces périodes d'expansion, il privilégie la production de biens inutiles par rapport aux besoins fondamentaux, parce que le capitalisme n'a que faire des besoins de ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter. Le capitalisme privilégie même la production de biens nuisibles, comme le montre le commerce des armes et celui des drogues qui arrivent en tête du commerce mondial depuis déjà bien des années. Même dans ces périodes d'expansion et même dans les pays impérialistes où l'économie concentre ses plus grandes richesses, elle condamne une partie de la population à la misère matérielle et morale, à la régression, aux cités dortoirs, quand ce n'est pas au taudis, aux drogues et à la criminalité. Même en période d'expansion, le capitalisme creuse l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de la société, en même temps qu'il creuse l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Le gâchis le plus important engendré par l'organisation capitaliste de l'économie, un gâchis humainement inacceptable, économiquement désastreux, c'est le gâchis du travail humain. Même dans les pays capitalistes les plus développés, ceux d'Amérique du Nord ou d'Europe occidentale, plusieurs millions de personnes sont maintenues hors de la production. Ce sont pourtant ces pays qui concentrent sur leur sol l'écrasante majorité des usines, des machines, des moyens de produire, sans même parler du niveau culturel, de la recherche scientifique et technique. Le chômage est, quand on y pense, une véritable aberration mentale. Il y a d'un côté des hommes capables de produire et des infrastructures matérielles pour le faire efficacement, et d'un autre côté, des besoins à satisfaire. Mais entre les capacités de production de la société et les besoins, s'interpose la loi du profit. Et le capitaliste ne met en œuvre son capital productif et n'embauche des chômeurs qu'à condition que cela lui rapporte du profit. Et un profit suffisamment élevé pour que le capitaliste industriel puisse payer sa dîme à une multitude de ses congénères sans lesquels les entreprises ne pourraient pas fonctionner. Banquiers, négociants, assureurs, publicitaires et bien d'autres. Les capitalistes ont le monopole des moyens de production et sont les seuls habilités à les mettre en œuvre. C'est ce monopole-là qu'il faut briser, car un chômeur qui retrouve du travail crée la valeur qui permet d'assurer son salaire, tout en permettant d'accroître la production sociale. Le développement capitaliste est encore à la base de l'énorme gâchis de travail humain que représente le sous-développement. Il ne s'agit pas seulement du fait que dans les pays pauvres, le chômage est en général bien plus élevé que dans les pays riches. Plus grave encore est le fait que tous ceux qui travaillent n'ont pas accès aux moyens de production qui démultiplient l'efficacité de leur travail à la mesure des capacités productives de notre époque. Combien de paysans des pays pauvres travaillent du matin au soir avec une rentabilité 10 fois, 100 fois inférieure à celle de leurs semblables des pays développés? Le paysan africain qui cultive la terre avec un daba, sorte de petite pioche, n'est pas un chômeur. Mais le simple fait de ne pas avoir accès à un tracteur ou à une pompe à eau permettant un minimum d'irrigation fait que toute une partie de son travail part en fumée. Et pour lui-même, et pour la société. Que d'efforts humains gâchés lorsque, faute de canalisation, l'approvisionnement en eau se fait à dos d'hommes ou sur la tête des femmes, non seulement dans les villages, mais aussi dans les quartiers populaires des grandes villes. Que de gâchis aussi du fait de la transformation de l'agriculture locale. Par la violence et par la force du pouvoir colonial dans le passé, par la pression économique aujourd'hui, un grand nombre de pays pauvres ont été contraints d'abandonner les cultures vivrières susceptibles de nourrir leur population pour des cultures destinées au marché des pays impérialistes. On a imposé au Sénégal la culture de l'arachide pour obliger les paysans à produire pour le sieur. On a imposé au Tchad la culture du coton, traité ensuite en France pour le plus grand profit des grands capitalistes du textile comme Boussac. On intégrait ainsi dans un même processus de production les petits paysans du sud du Tchad cultivant le coton et les ouvrières des usines de textile des Vosges, dépendant les uns et les autres du même groupe capitaliste, celui de Boussac. De la même manière, pour que puissent être produits tous ces cosmétiques vendus chers à des femmes qu'on cherche à convaincre qu'elles le valent bien, il y a le travail. Il y a le travail et les efforts des ouvrières des usines cosmétiques de L'Oréal. Mais il y a aussi le travail et les efforts des ouvriers agricoles qui, sur les plantations de Côte d'Ivoire, s'échinent dans les palmeraies qui ont pris la place de la forêt. La concurrence, qui a été le principal ressort du progrès capitaliste, a abouti à son contraire, à la concentration et à la centralisation du processus capitaliste. Le capitalisme est devenu l'impérialisme. Pour reprendre une expression de Trotsky, de la concurrence, qui avait été le ressort créateur du capitalisme et sa justification historique, sort irrévocablement le monopole, malfaisant, parasitaire, réactionnaire. Ce sont ces monopoles, les Total, Exxon, les Nestlé, les Monsanto, les groupes financiers et industriels qui dominent aujourd'hui l'économie mondiale. Périodiquement, les adversaires des idées communistes prétendent que cette concentration des capitaux permet une régulation du fonctionnement du capitalisme et la disparition des crises. On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Au dire même des dirigeants du monde capitaliste, la crise actuelle est une des plus graves que l'économie capitaliste ait connue depuis la grande crise qui a suivi l'effondrement de la bourse de New York en 1929. Faut-il rappeler que le krach de 1929 fut le début, pas la fin, de la crise économique ? Elle a entraîné une crise sociale ébranlant toutes les classes, avec ses armées de chômeurs, ses agriculteurs et artisans ruinés. La crise sociale a entraîné à son tour des crises politiques graves, avec l'arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne, de régimes autoritaires dans plusieurs pays d'Europe et finalement la guerre. Déjà à cette époque, le capitalisme n'avait pu être sauvé que par l'intervention de l'État. L'Allemagne de Hitler, comme les États-Unis du président démocrate Roosevelt, sont alors massivement intervenus pour sauver le capitalisme en faillite, avant que, avec la guerre, tous les autres États impérialistes en fassent autant. Instruits par ce précédent, les dirigeants politiques les plus réactionnaires de la bourgeoisie, de Bush à Sarkozy, se sont brusquement mis à proclamer les vertus de l'intervention étatique. Et si aux États-Unis, par exemple, le hasard du calendrier électoral a fait que c'est le nouveau président démocrate qui se prépare à nationaliser Citigroup, la plus importante banque du monde, ce sont bien Bush et son équipe ultra-conservatrice et ultra-libérale qui avaient commencé à vider les caisses de l'État pour voler au secours des banques et des grandes institutions financières. Même avant la crise, cette économie capitaliste porteuse de l'idée du chacun pour soi ne pouvait fonctionner sans une dose importante d'intervention de l'État. Pour mieux servir les intérêts généraux de la bourgeoisie, l'État est obligé d'échapper dans une certaine mesure à la logique du profit individuel et à ses impératifs. Sans l'État, il n'y aurait pas en France d'éducation, de routes, de chemins de fer, de réseaux électriques, ni d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, et le capitalisme ne pourrait exister. Les pertes des banques sont étatisées, alors que les profits, eux, demeurent privés. Les travailleurs, rejetés de la production par la folie du système, sont traités d'assistés par les porte-paroles de la bourgeoisie. Mais c'est le capitalisme qui ne peut survivre sans l'assistance de l'État. De la même façon que pendant ces dernières décennies d'existence, la noblesse en France s'agglutinait à la cour de Versailles pour y être entretenue par le roi, la classe bourgeoise s'agglutine aujourd'hui autour de l'État pour être entretenue. Le fait que l'État joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du capitalisme, qu'il soit obligé d'intervenir périodiquement pour sauver ce système économique, exprime avant tout le caractère parasitaire, usuraire, néfaste du capitalisme d'aujourd'hui. Mais il exprime aussi la tendance fondamentale de l'économie à ne plus pouvoir fonctionner dans le cadre de la propriété privée. En faisant appel à l'État, le marché rend en quelque sorte hommage à la centralisation et à la planification. C'est l'hommage du vice à la vertu. C'est l'aveu que même sous le capitalisme, le fonctionnement de l'économie dans son ensemble a besoin d'une coordination. La nécessité d'une planification rationnelle sointe par tous les pores de l'économie, qui continue cependant à fonctionner sous commandement privé et pour produire du profit privé. La bourgeoisie n'est plus capable de gérer les forces productives modernes. Cette incapacité n'est pas due à l'incapacité des hommes, mais à l'incapacité de tout le système économique qui arrive au bout du rouleau. Et en fait, il y a dans l'étatisme de la bourgeoisie comme une expression déformée, grotesque, de ce sur quoi est fondé aussi notre programme communiste. Car au fond, la première phase, sinon du communisme, du moins du cheminement vers le communisme, ce sera que toutes les grandes entreprises, toutes les banques expropriées par la classe ouvrière deviennent des services publics. C'est-à-dire qu'elles soient, dans la mesure où elles seront nécessaires, coordonnées par un plan en vue de produire non pas du profit privé, mais pour satisfaire les besoins de la société. L'un des apports fondamentaux de Marx aux idées socialistes a été de comprendre tout ce qui, au sein même de la société capitaliste, annonçait l'avenir communiste de la société. Ce ne sont pas les communistes, mais le capitalisme lui-même qui a fait que la production moderne nécessite la coordination de milliers, de centaines de milliers de personnes. Il a fait surgir des multinationales dont les activités se déploient dans des dizaines de pays. C'est le capitalisme qui a fait que la production est de fait socialisée, collectivisée, depuis longtemps. Elle l'est à une échelle de plus en plus vaste à notre époque. Elle l'est à l'échelle du monde. Mais ce travail socialisé reste soumis aux intérêts privés. Et c'est une des contradictions les plus graves du capitalisme de notre époque. Une autre contradiction est celle qui oppose le caractère international de la production capitaliste aux barrières nationales. À ses origines, le capitalisme s'est développé en Grande-Bretagne et en France dans un cadre national, sous la protection de l'État. Mais là encore, c'est le développement capitaliste lui-même qui a tissé des liens économiques entre différents pays d'Europe et bien au-delà, au point que l'économie étouffe dans des frontières nationales dépassées. N'en déplaise aux courants nationalistes les plus réactionnaires, les liens d'interdépendance sont tels que le repliement sur elle-même des plus grandes puissances économiques capitalistes européennes signifierait une régression catastrophique, une plongée dans la barbarie. Ce sont précisément les pays les plus riches d'Europe occidentale qui ont été à l'origine du marché commun, puis de l'Union européenne, tant la nécessité de contourner, sinon de dépasser les frontières nationales, s'est imposée aux bourgeoisies d'Europe. Mais les bourgeoisies n'ont pas été capables pour autant de supprimer les États nationaux à leur service. Et les tensions croissantes entre États de l'Union européenne montrent à quel point les différentes bourgeoisies d'Europe sont confrontées à la quadrature du cercle. Tout dans l'évolution économique pousse à l'unification complète du continent européen, alors qu'en même temps, la bourgeoisie capitaliste ne veut pas, ne peut pas la réaliser complètement. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le capitalisme est incapable d'aller jusqu'au bout des évolutions engendrées pourtant par sa propre économie. Avec la crise actuelle, les laudateurs les plus bornés du capitalisme n'osent pas le présenter comme ils le faisaient il y a 20 ans, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, quand ils proclamaient la fin de l'utopie communiste. Mais croire que le capitalisme peut se développer sans heurts, sans accrocs, sans crise, c'est cela l'utopie. Aujourd'hui, même chez les dirigeants du monde capitaliste, il est à la mode de parler d'insuffisance de régulation, de moralisation et d'étatisme. Dans leur discours revient cependant comme un leitmotiv l'idée que la fin de l'Union soviétique et le retour vers le capitalisme des États qui en sont issus signifie l'échec du communisme. La bourgeoisie, ses économistes, ses politiciens, ses journalistes présentent la dislocation de l'Union soviétique non pas comme l'effondrement d'un régime politique, mais comme l'effondrement d'un système économique. Et plus encore, comme l'échec des idées communistes, comme la preuve qu'il est vain de tenter d'organiser l'économie sur d'autres bases que le capitalisme, la propriété privée des moyens de production et la course au profit. Eh bien, c'est un mensonge grossier. L'effondrement de l'Union soviétique a été provoqué par une contre-révolution politique et sociale, et pas par l'échec de l'économie planifiée. Le capitalisme n'a pas montré sa supériorité par rapport à l'économie mise en place par la révolution ouvrière de 1917. Il a seulement aspiré et absorbé la couche privilégiée dominante de la société soviétique. Alors, parlons-en du bilan de l'économie soviétique. Comme Arlette Laguiller l'a rappelé tout à l'heure, le courant politique dont nous nous réclamons, le courant trotskiste, est né dans le combat contre la bureaucratisation de l'Union soviétique et contre le stalinisme. Contrairement au PCF, nous n'avons jamais présenté l'Union soviétique de Staline, de Khrouchtchev ou de Brejnev comme une société communiste. Nous avons toujours dit qu'une société dominée par une bureaucratie, s'imposant par la dictature et survivant en parasite de l'économie, ne pouvait pas être une société communiste. Mais, en revanche, nous assumons pleinement le bilan de l'économie soviétique, malgré les limites que lui a imposées la bureaucratie. L'Union soviétique a été le premier pays où le prolétariat, après avoir pris le pouvoir politique et après avoir aboli complètement la propriété féodale et la propriété bourgeoise, a étatisé les moyens de production, condition nécessaire du développement socialiste. Les dirigeants de la Révolution n'avaient pas l'intention de bâtir une société communiste dans le cadre d'un seul pays. Ils savaient que cela était impossible, car c'est précisément la division internationale du travail, la mondialisation, pour reprendre un vocable d'aujourd'hui, qui permet le haut niveau de développement des forces productives qui assure la base économique du socialisme. Mais rester isolé, après le reflux de la vague révolutionnaire dans d'autres pays, notamment dans un pays industriellement développé comme l'Allemagne, les dirigeants de l'Union soviétique durent faire fonctionner l'économie et la développer sur de tout autre base que l'économie capitaliste. Sans bourgeoisie, sans propriété privée des moyens de production, sans marché, sans concurrence et sans course au profit. Ils durent le faire dans des conditions particulièrement difficiles, s'agissant certes d'un très grand pays, avec une multitude de ressources naturelles, mais aussi très pauvre, sous-développé sur le plan matériel comme sur le plan culturel. De plus, la révolution connut un cours différent de ce qu'avaient espéré les communistes véritables. Car la révolution restant isolée, pour reprendre l'expression de Trotsky, l'appareil d'État ouvrier a subi une dégénérescence complète, se transformant d'instrument de la classe ouvrière en instrument de violence bureaucratique contre la classe ouvrière et, de plus en plus, en instrument de sabotage de l'économie. Eh bien, malgré les conditions difficiles, malgré le sabotage de la bureaucratie et contrairement aux mensonges répétés depuis des livres scolaires jusqu'aux plus grands médias, l'économie étatisée s'est révélée bien supérieure à l'économie basée sur la propriété privée, le marché et la concurrence. La concentration de la propriété des moyens de production entre les mains de l'État et la mise en œuvre d'un plan unique, appuyé sur d'immenses ressources naturelles, ont permis un décollage spectaculaire de l'industrialisation du pays, la croissance des villes, la création de nouvelles. Cette Russie révolutionnaire, arriérée au départ, dévastée et épuisée par les guerres et les commotions révolutionnaires, mit près de dix ans pour se replacer au niveau économique où elle était en 1913, juste avant la guerre. C'était déjà une performance, car elle y était parvenue malgré les interventions militaires des puissances capitalistes, puis malgré leur blocus économique. Entre 1926 et 1938, c'est-à-dire en 12 ans, la production industrielle de l'Union soviétique fut multipliée par 8, alors que, pendant la même période, l'économie capitaliste s'était effondrée dans la crise, y compris dans ses citadelles américaines et allemandes. En 1935, elle devint le troisième producteur d'électricité du monde, derrière les États-Unis et l'Allemagne, alors qu'elle n'était quasiment pas électrifiée avant la Révolution. Cette période de croissance sans précédent ne fut que momentanément interrompue par la Deuxième Guerre mondiale, par l'invasion des troupes nazies, mais pas définitivement arrêtée. Pendant la guerre, l'Union soviétique fut capable de tenir tête à une des principales puissances capitalistes européennes, l'Allemagne, et finalement de l'emporter. Ce ne fut pas seulement une question de courage ou une question de motivation. Cela comptait, bien sûr, et ô combien. Mais la guerre fut aussi une confrontation économique. Combien de chars, combien de canons les économies des deux pays en guerre pouvaient produire? Et donc, combien de tonnes d'acier? Eh bien, malgré l'aveuglement de Staline qui s'était laissé surprendre par l'attaque de Hitler, malgré la désorganisation de l'armée soviétique consécutive au procès politique qui l'avait décapité, l'Union soviétique et son économie, tout autant que son armée, sortirent victorieuses de cette confrontation. Et ce qui donne toute sa valeur à cette performance, ce sont les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Les principales industries étaient concentrées dans la partie occidentale de l'Union soviétique, cette partie précisément qui fut rapidement envahie par les armées allemandes. Il fallut alors déménager au-delà de l'Oural, en quelques mois, plus de 2600 usines, 10 millions d'ouvriers. Il fallut construire plus de 10 000 km de voies ferrées, et tout cela en plein hiver. Une opération sans précédent dans l'histoire industrielle, qui n'aurait pas été possible ni même concevable sans l'étatisme. C'est grâce à cela que l'industrie de guerre soviétique allait en quelques mois rattraper, puis dépasser l'industrie de guerre allemande et fabriquer 2 fois plus de blindés et d'avions, 3 fois plus de canons. Si l'histoire a retenu la bataille de Stalingrad comme le tournant de la guerre, les conditions matérielles de ce tournant s'étaient préparées au-delà de l'Oural, dans des centaines d'usines de l'industrie étatique. Et la guerre finie, l'Union soviétique continua sur un cours ascendant son développement industriel, au point que, de pays sous-développés du départ, comparable à l'Inde ou au Brésil, elle devint dans les années 1960 une puissance industrielle, capable de se confronter dans la course à l'espace avec la principale puissance impérialiste du monde, les États-Unis, et d'être en tête pendant une bonne dizaine d'années. Sa production globale resta certes de loin inférieure à celle des États-Unis. Mais alors que la production soviétique ne représentait que 28% de la production américaine en 1937, elle en représentait la moitié en 1972. Cela se fit sous la dictature. Mais contrairement à ce que racontent bien des commentateurs aussi stupides que malveillants, ce n'est pas la dictature qui permit ces progrès fulgurants. Sinon, de Mobutu à Duvalier, de Bongo aux dictatures militaires d'Argentine et du Brésil, on aurait dû en voir des pays qui se développent. Non, la dictature de la bureaucratie a été un handicap pour l'économie planifiée et pas un avantage. Comme a été un handicap la part croissante des richesses créées grâce à l'économie planifiée qui a été détournée par la bureaucratie pour son usage de caste. L'étatisation de l'économie donne de formidables moyens pour produire en fonction des besoins. Encore faut-il que les besoins puissent être déterminés, mesurés, modifiés et éventuellement corrigée. En réalité, pour qu'elle fonctionne au mieux de ses possibilités, la planification a besoin de la démocratie. Elle en a besoin pour exprimer la demande, pour la modifier au fur et à mesure de son évolution, pour critiquer aussi, le cas échéant, les défauts du plan en cours. Ce n'est pas pour rien que dans le programme de transition, Trotsky fixe ainsi le programme de la révolution dans l'Union soviétique bureaucratisée. Il faut une révision de l'économie planifiée, du haut en bas, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs. Les comités d'usines doivent reprendre le droit de contrôle sur la production. Les coopératives de consommation, démocratiquement organisées, doivent contrôler la qualité des produits et leur prix. Une des raisons fondamentales pour lesquelles la bureaucratie ne pouvait pas admettre un contrôle démocratique de la population sur la production, c'est qu'elle voulait dissimuler ses propres prélèvements. Les dirigeants de l'Union soviétique, représentant les couches supérieures de la bureaucratie, pouvaient d'autant plus être négligents vis-à-vis de la consommation des masses populaires que leurs propres besoins, y compris d'articles de luxe, étaient assurés par l'intermédiaire de réseaux de magasins spéciaux alimentés aux besoins par les importations. Mais toutes ces méthodes n'étaient pas inhérentes à la planification. Et ces prélèvements honteux de la bureaucratie, que représentaient-ils à côté des prélèvements assumés au grand jour, à côté des dépenses de luxe les plus extravagantes et à côté du train de vie des milliardaires de la bourgeoisie? Et pour douloureuse qu'ait été la gabegie bureaucratique pour l'économie soviétique, son coût social était sans comparaison avec ce que coûte à la société l'immense gâchis de la course au profit, des rivalités économiques, la financiarisation de l'économie, le chômage de masse, sans même parler des crises. Il faut aussi ajouter que pour négliger qu'aient été les besoins des classes laborieuses, le progrès de leur niveau de vie n'était certainement pas inférieur à celui des masses populaires de pays au degré de développement comparable. Et même sous l'angle de la consommation de masse, l'Union soviétique des années 1930, puis des années 1950 et 1960, ne pâtirait pas de la comparaison avec d'autres pays comme le Brésil ou l'Inde. Et ce, d'autant plus si l'on tient compte non seulement des salaires individuels, mais aussi de l'accès à tous à la santé, à l'alphabétisation, à la scolarisation, y compris jusqu'au niveau universitaire. Alors oui, malgré toutes les conséquences néfastes de l'isolement économique, malgré les méthodes bureaucratiques, malgré le parasitisme de la bureaucratie, l'économie soviétique, basée sur la propriété étatique et la planification, a progressé plus fortement pendant un bon demi-siècle que n'importe lequel des pays bourgeois. La preuve a été donnée qu'il était possible non seulement de faire fonctionner l'économie d'un grand pays en se passant complètement de la bourgeoisie, mais encore de la développer sur cette base. Et la différence n'a pas été seulement dans le rythme de développement, mais aussi dans sa nature. Regardons comment, même lorsque le capitalisme développe un pays pauvre en le transformant en pays semi-développé, comme le Brésil par exemple, ce développement aggrave les inégalités à l'intérieur même du pays. D'un côté, des villes industrielles comme Sao Paulo avec des usines ultramodernes, et de l'autre, des régions abandonnées, laissées dans la misère, comme le Sertão avec sa population mourant de faim. Eh bien, l'économie planifiée, même sous l'égide de la bureaucratie, avait pour objectif de réduire l'écart entre les régions développées et les régions les moins développées. La planification a fait surgir de nouvelles villes industrielles, là où il n'y en avait pas avant, et là où cela ne correspondait à aucune logique marchande. Prenant dans les années 20 la défense de l'économie planifiée, alors encore balbutiante, Trotsky écrivait « C'est facile de railler les plans établis pour de longues années et qui dans la suite s'avèrent inconsistants. Mais pour arriver à établir des plans rationnels, il faut commencer, malheureusement, par des plans primitifs et grossiers. De même qu'il a fallu commencer par la hache de pierre, avant d'arriver au couteau d'acier. Eh bien, durant un demi-siècle de compétition, la hache de pierre de l'économie planifiée a fait mieux que le couteau d'acier du capitalisme. L'Union soviétique sous-développée est devenue la deuxième puissance industrielle du monde. Il n'y a eu qu'un seul pays au monde où le prolétariat a tenté les méthodes économiques dont il est porteur, alors que le capitalisme fonctionne dans les quelques 200 pays enregistrés à l'ONU. La comparaison est probante entre cette seule et unique tentative prolétarienne et toute la variété de fonctionnement capitaliste. Trotsky affirmait dans La Révolution trahie, « Si la révolution d'octobre n'avait apporté que cette accélération d'allure, elle serait déjà justifiée du point de vue historique. Quand bien même, le prolétariat russe a fait la révolution en vue de fin beaucoup plus élevée. » La dégénérescence de l'Union soviétique a été la dégénérescence de l'appareil étatique mis en place par le prolétariat. Mais même déformé par les besoins propres à la bureaucratie, l'étatisme, la planification ont résisté à l'épreuve. Comme l'écrivait Trotsky dans « La révolution trahie », il n'y a plus lieu de discuter avec messieurs les économistes bourgeois. Le socialisme a démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, mais dans une arène économique qui couvre le sixième de la surface du globe, non dans un langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. Alors oui, tout dans l'histoire récente nous conforte dans la conviction que le capitalisme a fait son temps et qu'il doit céder la place à une forme d'organisation économique et sociale supérieure. Et j'ajouterai que l'on peut choisir n'importe quelle décennie dans l'histoire de l'Union soviétique et la comparer avec les 10 ans qui ont suivi son écroulement. La comparaison est éloquente. Pendant les 10 années qui ont précédé et suivi l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, l'effondrement de l'économie de la Russie apparaît dans les chiffres. La production nationale a reculé de 50%. Et jusqu'à la population, qui a diminué régulièrement d'un ou 2 millions de personnes par an. Et dans les autres États de l'Union soviétique plus pauvres, cela a été pire. Mais telle est la puissance de la propagande du monde capitaliste, que ce recul catastrophique, cet appauvrissement considérable du pays, ont été transfigurés en une marche triomphante vers le bien-être à l'occidental et vers la liberté. Comme si l'enrichissement de quelques millions de bureaucrates et de nouveaux bourgeois par le pillage de la propriété collective, comme si l'invasion de la Côte d'Azur ou de stations de sport d'hiver huppées par les milliardaires russes était le signe du développement du pays. Et comme si la liberté... Et comme si la liberté pouvait se résumer au régime tout à la fois policier et mafieux de Poutine. Alors, en Union soviétique, ce n'est pas l'économie soviétique qui a fait faillite. Ce qui a fait faillite, c'est le pouvoir de la bureaucratie attiré par les charmes du capitalisme. Quoi qu'on nous en dise, l'économie de marché capitaliste développe moins bien l'économie, moins rationnellement que l'Union soviétique ne l'a fait, malgré son retard et ses handicaps. Le capitalisme n'est pas seulement injuste, il est aussi anachronique et il constitue un frein devant tout essor de la civilisation humaine. Mais une organisation sociale peut se maintenir bien au-delà de sa légitimité historique. Depuis la révolution russe et la vague révolutionnaire qui l'a suivie, faisant espérer la défaite du capitalisme, il s'est passé près d'un siècle. L'humanité a payé ce retard historique par la Grande Dépression de 1929, par le nazisme en Allemagne, par la Deuxième Guerre mondiale et aussi par le stalinisme. Elle le paye depuis la Deuxième Guerre mondiale par un développement économique aussi chaotique qu'inégalitaire. Elle le paye par les guerres innombrables menées par les grandes puissances impérialistes pour maintenir leur mainmise sur les richesses d'une région, directement ou par fantoches interposées. Elle le paye par l'incapacité de l'humanité à mettre fin à la sous-alimentation et aux famines dans le monde, alors pourtant que les moyens matériels pour y parvenir existent largement. Elle le paye par le fait que même dans les pays les plus riches, on peut crever de froid dans la rue, car on ne construit pas le nombre de logements accessibles qu'il faut, alors même que les bras qui existent pour le faire sont condamnés au chômage. Mais cet ordre social, même dépassé, devenu anachronique, ne disparaîtra que s'il y a une force révolutionnaire pour le faire disparaître. Les marxistes ont toujours considéré que la force révolutionnaire capable de détruire le capitalisme ne peut être que la classe ouvrière, ou si l'on veut, la classe salariale dans toute sa diversité. « Il n'y a pas lieu de s'étonner que cette classe sociale, dont dépend en dernier ressort l'avenir de l'humanité, n'apparaisse pas révolutionnaire en permanence. Les périodes révolutionnaires, lorsque la classe dominante ne croit plus en son propre avenir, et lorsqu'il y a une classe nouvelle qui est prête à prendre sa place, sont extrêmement rares. Il n'y en eut guère que deux ou trois au XIXe siècle et autant au XXe siècle. Mais c'est précisément dans ces périodes-là qu'il faut que la classe porteuse d'avenir soit prête à assumer son rôle. Et le prolétariat ne pourra l'assumer que s'il parvient à créer un parti révolutionnaire. Il y a 70 ans déjà, Trotsky écrivait que la crise de l'humanité se réduit à la crise de la direction prolétarienne. Les partis qui ont joué ce rôle à différentes époques historiques, les partis socialistes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ou les partis communistes pendant les quelques années qui ont suivi la révolution russe et avant que le stalinisme ne les transforme en instruments de la bureaucratie russe, ne jouent plus ce rôle depuis très longtemps. De partis ouvriers ayant pour objectif l'émancipation sociale, ils se sont transformés en instruments de la bourgeoisie, en défenseurs du capitalisme, au sein même de la classe ouvrière. C'est cela qui a permis à la bourgeoisie de prolonger son règne. Mais si on peut retarder la marche de l'histoire, on ne peut pas l'arrêter. Le communisme n'est pas une utopie qui peut disparaître. Sa nécessité résulte de la marche même du capitalisme. Débarrassé de la domination de la bourgeoisie, du carcan de la propriété privée et des dégâts de la course au profit, l'économie connaîtra une nouvelle période d'essor, mais un essor maîtrisé. Malgré leurs limites, les progrès économiques de l'Union soviétique donnent une idée de ce que l'organisation planifiée, étatisée de la production pourrait réaliser, si elle était appliquée non pas dans un pays pauvre, mais dans un pays industriel développé. À commencer par les États-Unis, avec les formidables possibilités matérielles concentrées sur leur sol, avec le contrôle de la classe ouvrière américaine, nombreuse et cultivée. Le prolétariat au pouvoir développera la production, mais en la maîtrisant. L'économie, sous le contrôle démocratique du prolétariat, produira pour satisfaire les besoins de la population, mais rien que pour cela. Elle développera la production, mais en respectant la nature. Karl Marx l'a expliqué dans Le Capital. La société elle-même n'est pas propriétaire de la terre. Il n'y a que des usufruitiers qui doivent l'administrer en bon père de famille afin de transmettre aux générations futures un bien amélioré. La révolution ouvrière supprimera les frontières nationales et toutes les barrières matérielles ou morales qu'elles impliquent. Le prolétariat dirigeant l'économie arrêtera immédiatement les productions nuisibles. En particulier, l'industrie d'armement, qui concentre aujourd'hui bien souvent le meilleur des connaissances scientifiques et technologiques, pourrait être reconvertie à des technologies civiles. Les travailleurs au pouvoir chercheront à réduire l'inégalité criante entre les parties développées et les parties sous-développées de la planète. La socialisation des moyens de production signifiera la mise en commun du savoir et des progrès de l'ensemble de la société. Aujourd'hui, les groupes capitalistes protègent par tous les moyens les fruits des recherches de leurs ingénieurs et de leurs chercheurs. Le secret industriel, comme le système du brevet, sont des armes dans la concurrence entre groupes capitalistes, mais ils constituent un frein considérable au progrès scientifique et technique. La socialisation de la pensée technique et scientifique signifie que la recherche serait débarrassée des barrières rétrécissantes de la propriété privée. Tout progrès scientifique, toute amélioration d'ordre technique d'une usine quelconque, tout perfectionnement des méthodes deviendront, sans formalité aucune, le bien commun de toutes les fabriques ou usines qui y sont intéressées. Rien que cela constituera un progrès formidable. Dès que disparaîtront les barrières de la propriété privée et de la concurrence, la centralisation créée par le capitalisme, une grande partie des circuits mis en place par les trusts pourront être transformés en de puissants organes de coordination visant à satisfaire au mieux les besoins des hommes. Les progrès scientifiques et techniques hérités du capitalisme, les satellites pour surveiller la végétation et prévoir les récoltes, les moyens de communication puissants qui servent aujourd'hui à la spéculation boursière seront mis au service de la planification à l'échelle de la planète, dans les domaines où c'est à cette échelle qu'il faut planifier. Mais cette planification sera en même temps extrêmement souple. Et s'il faut une collaboration à l'échelle de la planète pour combattre le réchauffement ou le trou de la couche d'ozone, ou encore pour prévoir les grandes catastrophes naturelles, une très large part de la production agricole ou industrielle pourra être planifiée à une échelle plus petite, régionale ou locale, sous le contrôle le plus direct de la population. Et la hausse de la productivité que tout cela engendrera permettra de réduire le temps de travail et de faire en sorte que les hommes puissent se consacrer à d'autres choses qu'à la production des biens matériels nécessaires pour vivre. L'éducation, la culture, sous toutes ses formes, pourront alors connaître un essor comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est alors qu'on pourra dire que l'humanité est en train de sortir de la barbarie. Alors oui, le communisme se fraiera un chemin, s'est inscrit dans l'évolution de l'économie comme de la société. Il le fera au travers des hommes, car ce sont les hommes qui font leur propre histoire. Et lorsque la classe ouvrière aura conscience de cette nécessité, lorsque celle-ci aura collectivement repris confiance en elle-même, elle fera surgir inévitablement en son sein des femmes et des hommes qui feront de l'émancipation de leur classe une raison d'y consacrer leur vie. Mais alors, il faudra qu'il y ait des militants qui transmettent une tradition politique et organisationnelle. Des militants qui ne confondent pas les succès électoraux avec la révolution sociale. Des militants qui ne confondent pas l'anticapitalisme avec la destruction du pouvoir politique et économique de la bourgeoisie. Des militants qui ne confondent pas la critique de quelques aspects néfastes du capitalisme avec la nécessité d'une autre organisation de la société, le communisme. Le capitalisme génère tant d'injustices, tant de formes d'oppression, tant de nuisances dans le domaine social et écologique qu'il y a la place pour une multitude de partis protestataires. Mais ce qui manque, c'est un parti dont l'objectif ultime soit la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, non pas à l'intérieur des institutions de la bourgeoisie, mais au contraire par la destruction de ces institutions et leur remplacement par des organes démocratiques du pouvoir des travailleurs eux-mêmes, comme l'ont été dans le passé la Commune de Paris ou les conseils ouvriers, les soviets, en Russie. De telles situations signifient que les luttes sociales, que la lutte des classes, ont pris un caractère aigu, entraînant la majeure partie des classes exploitées et ébranlant toute la société. Il faudra alors un parti qui soit déterminé et capable d'aller jusqu'au bout, soudée autour du programme communiste, afin de permettre à la classe ouvrière de prendre et d'exercer démocratiquement le pouvoir. Et ce que j'entends par programme communiste, c'est bien sûr le formidable instrument de compréhension de la société capitaliste que constitue le marxisme, enrichi par les apports de Lénine et de Trotsky. Mais c'est aussi toute l'expérience du mouvement ouvrier du passé. Comme l'a rappelé tout à l'heure Arlette Léguyer, l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire depuis près de 2 siècles est une succession de combats, jalonnés de succès, parfois de victoires, et bien plus souvent d'échecs ou de défaites. Il appartient au Parti communiste révolutionnaire de tirer la leçon du passé, de ses succès aussi bien que de ses défaites, et d'en faire bon usage lors des combats futurs. Il ne s'agit pas d'une quelconque nostalgie du passé. Il s'agit de transmettre tout le capital d'expérience des luttes du passé à la classe ouvrière d'aujourd'hui, pour qu'elle soit armée pour les luttes de demain. Contrairement à certaines affirmations à la mode, les idées et les objectifs communistes ne constituent pas une page blanche sur laquelle élaborer le socialisme du XXIe siècle, mélange d'écologisme, de féminisme, avec un peu de guévarisme et d'anarchisme. Le programme communiste résulte de luttes de femmes et d'hommes, en chair et en os, de leur enthousiasme comme de leur souffrance. Il résulte de la lutte des classes elles-mêmes. Ceux qui rejettent ce programme rejettent par la même occasion tous ceux qui, dans le passé, ont lutté pour le communisme. Ils rejettent donc le communisme lui-même. Le Parti communiste révolutionnaire qu'il reste encore à construire, à faire grandir et à aguerrir ne pourra l'être que sur la base de l'affiliation avec le marxisme, le léninisme et le trotskisme, et surtout sur la base des expériences riches et variées que recouvrent ces mots. Il faudra que ce parti mérite la confiance des travailleurs les plus combatifs dans les luttes quotidiennes et qu'il les gagne aux perspectives communistes. Ce parti, un véritable parti communiste révolutionnaire, ne cherchera pas à être majoritaire ou même influent dans les institutions de la bourgeoisie. Mais il faudra qu'il soit à la hauteur lorsque les secousses révolutionnaires viendront. Notre perspective, c'est la transformation révolutionnaire de la société par la classe ouvrière ayant conquis le pouvoir politique. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs au pouvoir exproprieront la bourgeoisie, briseront la dictature des groupes industriels et financiers sur l'économie mondiale et transformeront en propriété collective les usines, les banques, les grands moyens de transport, les chaînes de distribution, les richesses naturelles. La société pourra enfin maîtriser ses conditions matérielles d'existence, produire en fonction des besoins et s'acheminer vers le communisme, une société sans exploitation, sans privilèges, sans classe sociale aux intérêts opposés. Voilà notre programme. Celui qui nous a été légué par les générations de communistes révolutionnaires qui nous ont précédés. Nous consacrons notre activité militante à construire, à renforcer le parti qui incarne ce programme. Alors, amis et camarades, tous ceux qui partagent notre conviction que le communisme est l'avenir de la société, aidez-nous, soutenez-nous, rejoignez-nous.
Camarades, avant de vous inviter à chanter le chant du mouvement ouvrier, Donc, je disais, avant de vous inviter à chanter le chant du mouvement ouvrier, l'international, je vais vous informer quand même qu'au mois de mai, nous commencerons la campagne électorale des élections européennes et nous organiserons le jeudi 14 mai un meeting pour lancer cette campagne ici même à la Mutualité. Je vous signale aussi que nous organisons à la sortie une collecte, au drapeau rouge, où je l'espère vous verserez généreusement pour nous aider. Et maintenant l'international.
Debout.